Bonjour à tous. Il va falloir que je vienne plus souvent parce que ça a changé depuis 2 ans ici. Hein? Ça a vraiment changé, mais c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. C'est une communauté que j'ai à cœur. Je me sens vraiment chez moi quand je viens ici et c'est vrai que vous me recevez toujours très bien et je me sens à l'aise et ça me permet finalement de... À chaque fois de venir, ben, d'être enrichi. Je vais remercier le président pour la présidence, les propos qu'il a parlé de Romains chapitre 8, qui pour moi est un des principaux chapitres, un des principaux chapitres de Romains. Il a cité Romains 8, 28. Le 29 est aussi intéressant parce qu'il nous dit que le but premier de Dieu, c'est pas votre bonheur ni mon bonheur, mais le temps que nous sommes sur la terre, c'est de nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Amen. Et rendons grâce à Dieu pour sa patience parce que c'est pas évident. Comme notre frère l'a mentionné tantôt, il a eu la franchise de dire qu'il y avait encore des choses dans sa vie que Dieu devait travailler. Eh bien, moi, je dois dire, celui qui est en avant, c'est un privilège pour moi de vous partager la parole. Mais je veux aussi vous confesser que Dieu a encore beaucoup de choses à travailler dans ma vie. Et quelle patience il exerce envers chacun de nous. Amen. Quel Dieu nous avons. Quel grand Dieu nous avons. Ce matin... je vais d'abord commencer par prier. On va remettre ce message entre les mains du Seigneur, ce message que Dieu a placé sur mon cœur et que Dieu puisse ouvrir aussi non seulement vos cœurs, mais aussi vos esprits afin que ce qui sera partagé à travers ma bouche, eh bien, puisse répondre à vos besoins. Moi, je vous regarde, vous avez tous des beaux visages ce matin, même si vous portez des masques, c'est les yeux qui parlent. Hein? Moi, ma mère me disait toujours, quand elle me parlait, elle me disputait, elle me détournait la tête, et elle me disait, « Hey, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. » Alors, les yeux, pour moi, les yeux parlent beaucoup. Donc, je ne connais pas vos besoins, mais le Saint-Esprit connaît vos besoins, et je suis convaincu qu'il a une portion en réserve pour chacun de vous. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous voulons te louer, nous voulons te bénir. Parce que Seigneur, en Jésus-Christ, Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. En Jésus-Christ, Seigneur, tu nous prépares quelque chose de merveilleux au ciel. Et ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas entendre l'homme prononcer des paroles. Seigneur, nous voulons entendre ton esprit parler à travers ton serviteur ce matin. Afin que, Seigneur, nos cœurs soient touchés, nos cœurs soient grandissent, progressent dans notre foi et dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois tous ces visages, tu vois toutes ces personnes dans ce lieu ce matin. Seigneur, ce n'est pas le fruit du hasard s'ils sont ici, mais c'est un rendez-vous que tu leur as donné depuis toute éternité. Je prie, Seigneur, de vraiment déverser à chacun des cœurs ici présents ce matin une portion de ton amour. Et pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas ce matin, eh bien, je te prie, Seigneur, qu'une parole puisse venir frapper leur cœur comme une épée à double tranchant. Et, Seigneur, faire tomber les forteresses qui pourraient les empêcher de prendre une décision pour Jésus-Christ. Et tout cela, je te le demande dans le nom de Jésus pour ta gloire seule. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si on peut projeter les passages bibliques. Le passage biblique ce matin que j'aimerais regarder avec vous, c'est dans la premier livre de Samuel, au chapitre 27. 1 Samuel, chapitre 27. Et le passage que nous allons examiner ce matin, bien-aimés, nous montre David pourchassé, traqué et hanté par de nombreux problèmes qui menacent de l'engloutir. On voit à travers la lecture de ce passage que c'est un homme qui est abattu, un homme épuisé, découragé et déprimé, qui se retrouve dans la fosse du désespoir. Et peut-être que ce matin, il y en a parmi vous qui vous trouvez au bord de la fosse du désespoir. Et ce texte va nous montrer ce matin quelles sont finalement les raisons, quelle est la raison qui nous amène à nous retrouver un jour dans la fosse du désespoir, mais aussi la manière, la façon de comment s'en sortir de cette fosse du désespoir. Alors qu'il se trouve dans cet état, eh bien David va prendre une décision complètement insensée qui aura des conséquences très graves dans sa vie. Il en vient à penser que Dieu l'avait oublié au point de croire que le plan que Dieu avait prévu pour lui avait échoué. Souvent, quand on pose aux gens quelle est la période la plus difficile pour David, souvent on nous cite le péché avec Bathsheba. Souvent, c'est le péché qu'on retient de David, en fait. Mais dans 1 Samuel 27, c'est la pire période que David aura vécue dans sa vie. Il va alors décider de prendre sa propre vie en main et il va commencer à vivre pour lui-même. Bien-aimé, ce matin, est-ce que vous vivez pour vous-même ou si vous vivez pour que le Seigneur se glorifie à travers vous? C'est une bonne question qu'on se pose. Parce qu'en vivant pour nous-mêmes, comme David, eh bien, on va voir que c'est pas du tout Dieu qui va occuper la première place et c'est pas du tout le but premier de David, ça sera pas de faire en sorte que Dieu soit glorifié. Et en pensant à cette étape de la vie de David, je vois en lui le portrait de nombreux chrétiens que j'ai rencontrés au fil des années dans mon ministère pastoral. C'est-à-dire des gens qui ont été sauvés par la grâce de Dieu et qui ont très bien commencé leur marche avec Dieu, mais qui, en cours de route, ont vu les choses ne pas se passer comme ils l'avaient imaginé. Découragés et désillusionnés, ils ont décidé de reprendre leur vie en main pour se retrouver dans la fosse du désespoir, comme ce fut le cas pour David. Spirituellement fragilisés, ces chrétiens ont pris une terrible décision qui a eu des répercussions terribles dans leur vie. Au lieu de continuer non seulement à faire confiance au Seigneur et vivre en fonction de ses promesses, ils ont choisi, comme David, de s'éloigner de Dieu et de vivre une vie charnelle remplie de compromis. Et en prenant cette décision insensée, ils vont en payer un prix très élevé. Pardon. Je voudrais, à partir de la vie de David ce matin, non seulement montrer ce qui nous amène à nous tromper dans les décisions que nous prenons dans nos vies, mais ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque nous prenons ces décisions et comment nous pouvons réparer les pots cassés et avancer par la suite avec Dieu. Et la première chose que j'aimerais examiner avec vous ce matin, c'est-à-dire ce qui a amené David à prendre la décision essentielle de quitter Israël pour aller vivre dans le pays des Philistins, eh bien, comme je viens de le mentionner, se trouve dans le premier livre de Samuel, au verset 1 du chapitre 27. Il est écrit que David dit en son cœur, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi, il n'y a rien de mieux pour moi que d'aller me réfugier au pays des Philistins. » Il n'y a pas rien de mieux pour David que de se réfugier dans les bras de Dieu, mais de se réfugier dans le pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Bien-aimé, nous sommes devant un bonhomme qui a composé des psaumes extraordinaires. Un homme selon le cœur de Dieu, bien-aimé. Et il va trouver la solution à son problème d'aller se réfugier dans un pays qui est un des pays les plus ennemis, qui a fait le plus de ravages dans le pays d'Israël. Il a oublié d'aller se réfugier dans les bras d'amour de son Dieu. Et on va voir la raison. C'est ça qui est intéressant, on va voir la raison, bien-aimé. On va voir la raison maintenant. Parce que David, premièrement, a fait confiance à la mauvaise personne, verset 1. Dans ce verset, nous retrouvons David en train de discuter avec lui-même. Au lieu de se tourner vers Dieu pour demander conseil, comme il avait si souvent fait dans sa vie, David se tourne vers lui-même pour demander conseil, et le conseil qu'il va recevoir, bien-aimé, sera tout sauf sage. En se tournant vers lui-même pour demander conseil, il va écouter, c'est-à-dire prêter l'oreille aux impulsions de son cœur pour en arriver à oublier toutes les grandes promesses que le Seigneur lui avait faites dans le passé. En écoutant les impulsions de son cœur, David va oublier premièrement que Dieu lui avait promis qu'un jour il serait roi. David va oublier deuxièmement que cette promesse avait été confirmée non seulement par Jonathan, le fils de Saül, mais par Abigaël et par Saül lui-même. Bien-aimé, David a oublié toutes ces grandes promesses que Dieu lui avait faites lorsqu'il a écouté son propre cœur, au point de penser qu'il savait mieux que Dieu ce qui était le meilleur pour sa vie. Il aurait dû se rappeler que Dieu est un Dieu souverain, qui contrôle totalement toutes choses passées, présentes et à venir, et qu'il réalise tout ce qu'il veut dans le ciel et sur la terre, sur les mers ou dans leur profondeur, et conformément à tout ce qu'il avait déjà décidé. Troisièmement, en écoutant les impulsions de son cœur, David a pris la mauvaise décision, il va décider d'abandonner le plan que Dieu avait prévu pour lui, pour suivre le plan que son cœur lui avait dicté, et quitter le chemin de la vie que Dieu avait tracée pour lui. En décidant qu'il serait préférable pour lui de fuir vers le pays d'Égypte, vers le pays des Philistins, pardon, où il se croyait, et où il croyait, oui, je dirais, où il croyait se mettre à l'abri des attaques de Saül, il cohabitait et fraternisait non seulement avec les ennemis de Dieu, mais avec les ennemis du peuple d'Israël lui-même. Imaginez le futur roi d'Israël, bien-aimé, courant vers les ennemis jurés du peuple de Dieu pour demander de l'aide. C'est le genre de pétrin dans lequel le cœur de David l'avait entraîné. En faisant confiance aux impulsions de son cœur, David avait pris une décision qui était dictée par ses sentiments. Il avait oublié que la vie chrétienne n'est pas une question de sentiments, mais qu'elle est une question de foi. Combien de fois dans mon ministère pastoral, quand j'entendais des gens qui venaient me trouver, en disant « Oh, Dieu a un plan merveilleux pour moi », et je lui disais « Mais sur quoi tu te bases pour dire que ce plan-là est pour toi? Je le sens. » Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui sent, bien-aimé. Le mot « sentir », c'est la même famille que le mot « sentiment ». Et on va le voir, on peut facilement se laisser tromper par nos sentiments. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Il avait oublié, David, que le juste est appelé à vivre par la foi et non par la vue. C'est ça qu'il nous dit à Habacuc, chapitre 2, verset 4, n'est-ce pas? Bien-aimés, il faut être prudent, voire même se méfier lorsque nous faisons confiance aux impulsions de notre cœur. Lorsque nous écoutons notre cœur, nous entrons en contact avec notre vieille nature, qui est une nature déchue, et qui voit toujours les choses à partir des choses terrestres. Nous savons bien comment, et je vais vous lire, c'est Paul qui dit dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, « Nous savons bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Elle nous pousse à vivre dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se détestent les uns des autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. » Ça, c'est les fruits de notre vieille nature, bien-aimés. Lorsque vous arrivez d'entendre des gens dire « Je le sens bien dans mon cœur », ces gens s'apprêtent généralement à rencontrer des ennuis. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous met en garde de ne pas faire confiance aux sentiments de notre cœur pour prendre des décisions. Parce que rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut le guérir, nous dit la parole, on ne peut rien y comprendre. Il est trompeur et il est incurable. Jérémie 17:9, Proverbe 28:26, bien-aimé. Notre cœur, si ce n'est pas Dieu qui le change, il est incurable, il est trompeur. On ne peut même pas le connaître parfaitement nous-mêmes. Combien de personnes, bien-aimées, qu'on a rencontrées, qu'on voit dans les journaux, qui ont tué, qui ont assassiné leur famille, ou qui ont commis des abus sexuels sur un et sur l'autre. Et quand on questionne les voisins, qu'est-ce qu'ils nous disent? « Oh, mais jamais on n'aurait pensé que cet homme-là ou cette femme-là aurait pu faire une chose pareille. » Le cœur est trompeur, nous dit la parole. Et bien, amis, vous savez ce qui est le plus dangereux? C'est que nous-mêmes, on ne connaît pas. Vous ne connaissez pas les limites, les capacités, jusqu'où votre cœur peut vous amener. Jusqu'où votre vieille nature peut vous amener pour vous détourner de Dieu. Bien-aimé, David s'est fait prendre. Il s'est fait prendre. Il était épuisé. Il en avait ras-le-bol de se faire poursuivre par Saül, qui l'a poursuivi pendant une grande partie de sa vie. Et la solution qu'il va trouver, eh bien, il va la trouver chez les Philistins. Il pense la trouver chez les Philistins. Et comment il y en a parmi nos chrétiens, qui au lieu de trouver la solution, chercher dans la parole et trouver la solution en Jésus-Christ, vont aller la chercher dans le monde. Et qu'ils se font leurrer, qu'ils se font tromper et qui en finissent souvent à quitter l'Église. Lorsque nous parlons à nous-mêmes, comme ce fut le cas pour David, nous sommes appelés à nous assurer que ces choses ne sont pas contraires à la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un vous dit « Écoute simplement ce que ton cœur t'a dit ou fais-le comme tu le sens », il vient de vous donner un conseil qui peut vous conduire non seulement à vivre un désastre, mais à bousiller votre vie chrétienne si vous êtes assez insensé pour suivre ce conseil. Si vous entendez votre cœur vous dire « Dieu ne se soucie même pas de vous », s'il se souciait de vous, ce que vous vivez pour le moment ne serait jamais arrivé, Cette église est morte, ces gens ne vous aiment pas. Dieu n'est pas juste avec vous. Vous vous sentirez mieux si vous restiez chez vous. Si vous changez d'église, cela vous ferait du bien. Nous savons que ces pensées ne viennent pas de Dieu. Il est impossible que certains d'entre vous savent de quoi je... Il est possible que quelqu'un dans cette église sait de quoi je parle. Bien aimé, la seule raison pour laquelle on peut quitter une église, c'est si la parole n'est pas prêchée. Si spirituellement on ne reçoit rien, c'est la seule raison qu'on peut quitter une église. Le reste, là, on fait partie de l'église. On peut être un problème dans l'église et Dieu est capable de trouver des solutions à travers nous, malgré tout. Dieu est un Dieu extraordinaire, bien aimé. Dieu a payé un prix élevé pour se glorifier à travers vous et à travers moi. Et frères et sœurs, Dieu, vous savez quoi? Il a fait de nous des ambassadeurs. Il a fait de nous ses ambassadeurs, ses ambassadrices. Et Dieu joue sa réputation à travers ce qui sort de notre bouche et à travers notre façon de marcher. Nous sommes ses ambassadeurs. Lorsque les gens nous rencontrent, est-ce qu'ils sont en mesure de dire que nous sommes différents des gens du monde, bien-aimés? On peut apprendre la Bible par cœur et ne dégage absolument rien parce que notre vie, elle n'est pas centrée sur le Seigneur Jésus, mais toujours en concentrée sur nous-mêmes, sur nos propres capacités, plutôt que sur les capacités de Jésus-Christ. Vous savez, la première fois, comment j'ai cliqué, moi, pour que j'ai été mis au pied du mur concernant mon éternité, c'est une petite personne, toute petite, qui m'a parlé. Et vous savez, moi, j'ai été dans la police, et j'ai travaillé au service de renseignement. Et au service de renseignement, eh bien, on nous donne des cours pour apprendre à détecter en 5 minutes quel genre d'individu on a devant nous, pour savoir comment l'aborder. Et je venais de quitter la police, et 6 mois après, eh bien, le Seigneur me présente ce bonhomme-là. Je suis chez lui, j'étais en train de lui présenter un service que j'offrais, et pas plus haut que ça, il commence à me parler des choses et d'autres. Il ne m'a pas parlé tout de suite de la Bible, mais de la vie. Et moi, bien, je lui répondais par mon catéchisme, parce que j'avais appris mon catéchisme par cœur, je fais partie de cette génération-là. Et pendant qu'il me parlait, il y a une petite voix qui m'a dit en moi-même, « Ce que tu cherches depuis toujours, ce gars-là, il est là. » Frères et sœurs, ses yeux, quand il me regardait, ses yeux dégageaient une vie que je ne suis pas capable de décrire. Et je n'étais pas capable de détourner mon regard de ses yeux, de ce visage, qui finalement, à travers différentes choses, va m'amener au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il n'y avait pas besoin qu'il enlève sa blouse et que je vois ici son t-shirt. Je suis chrétien. Il y avait quelque chose de particulier dans ses yeux qui montrait qu'il n'appartenait plus à ce monde, mais qu'il appartenait au monde d'en haut. Bien-aimé, avez-vous en vous quelque chose de particulier qui démontre aux gens que vous n'appartenez plus à ce monde, mais que vous appartenez au monde d'en haut? Avez-vous encore des choses à abandonner qui vous retiennent, qui appartiennent à ce monde, et que Dieu voudrait vous libérer pour faire en sorte de vous remplir de sa présence, de vous remplir finalement d'une présence qui attire les autres vers Jésus-Christ. Frères et sœurs, nos églises, je les fais à peu près toutes nos églises, et j'en fais de d'autres associations d'églises. La pandémie va mettre quand même quelque chose en lumière. Si spirituellement nos églises sont en train de se vider, il n'y a pas juste une question du COVID, il y a autre chose aussi. Bien-aimés, l'Église, elle traverse une crise spirituelle c'est incroyable parce qu'on a mis de côté depuis des années les doctrines évangéliques, les doctrines qui faisaient la force de l'Église de Jésus-Christ. On n'entend plus parler de conversion dans nos églises, on n'entend plus parler de repentance dans nos églises, on n'entend plus parler de nouvelle naissance dans nos églises, on n'entend plus parler de sanctification dans nos églises, parce qu'on a laissé rentrer des philosophies humanistes à l'intérieur de nos églises. Sois bon et tais-toi. Bien-aimé, si on ne parle pas de la repentance, qui est un élément essentiel à la conversion, on fait des religieux et non pas des gens nés de nouveau. Le premier message évangélique prêché par Pierre, il dit ça dans Actes chapitre 3, verset 17. « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. On peut faire n'importe quoi dans l'Église, mais si la repentance et la conversion n'est pas prêchée, il n'y a pas de péchés qui sont effacés. Ce sont des religieux qui vont s'asseoir dans nos bancs, et ces gens-là, c'est du bois mort. C'est des gens qui vont toujours avoir des problèmes, toujours les mêmes problèmes, et qui vont accaparer notre temps, alors qu'on pourrait mettre du temps ailleurs, vers des gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile, et vers des gens qui ont besoin du salut en Jésus-Christ. Frères et sœurs, la nouvelle naissance, vous l'avez vécue, vous savez ce que c'est. Moi, je l'ai vécue. Je vous raconterai pas mon ancienne vie. Pour vous donner juste une idée, tout le temps que j'étais dans la police, j'aurais jamais pu accepter l'Évangile. Jamais. Et j'ai attendu le moment, 6 mois après que j'ai quitté. Là, c'est ton temps, mon cher ami. Là, c'est ton temps, je vais te présenter quelqu'un. Ouais. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que ma religion n'était pas incapable de me dire où j'allais passer l'éternité avec certitude. Et lui m'a dit que dans l'Évangile, je pouvais avoir la certitude. Et j'ai commencé à faire ma recherche. Bien-aimés, dans cette salle ce matin, est-ce que vous avez tous la certitude où vous allez passer l'éternité? Parce que quand on regarde le signe des temps, Jésus revient bientôt, bien-aimés. Il revient bientôt. Je ne vous dis pas qu'il va revenir demain matin. Mais il a dit quelque chose lorsque vous verrez ces signes. Il n'a pas parlé du changement climatique. Il a parlé lorsque vous verrez ces signes, tous des signes qui concernent la nature, tremblement de terre, famine, inondation, il en a encore 2-3 autres. Quand vous verrez ces signes, sachez que c'est le commencement des douleurs de l'enfantement. Avant son retour, il y a le commencement des douleurs de l'enfantement. Bien-aimé, j'en fais pas un dogme, mais je suis convaincu qu'on est maintenant dans la période du commencement des douleurs de l'enfantement. On est en train de nous entraîner psychologiquement, mentalement, à se faire vacciner tous, en trouvant toutes sortes de bonnes raisons. Je ne suis pas anti-vaccin, hein? je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, je ne suis pas en train de vous vendre une salade, je viens simplement vous partager quelque chose. La prochaine étape après le vaccin obligatoire, ça va être la puce, bien-aimé. En Suède, c'est déjà commencé. Et les raisons pour lesquelles on incite les gens à avoir la puce et on a dans la main, c'est les mêmes raisons que pour le vaccin. Pour vous protéger. Votre carte bancaire va être là. Votre carte d'identité va être là. Votre dossier médical va être là. Et qu'est-ce qui va arriver après? Ceux qui ne voudront pas l'avoir, ben, ils vont avoir des problèmes. Hein? Comme maintenant, on commence à mettre là, le pass vaccinal maintenant. Obligatoire en France, c'est fait. Hein? Mais ça va suivre. À moins qu'il y ait des gens qui se réveillent. Et je ne suis pas en train de décrier les gouvernements, parce que la Bible nous dit de prier pour le gouvernement, donc je ne vais pas les critiquer. Mais je pense que nos gouvernements font leur possible. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Mais bien aimé, préparons-nous parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur est en train de frapper à la porte, bien-aimé. Et je ne vous dirai pas s'il va venir avant, pendant ou après les tribulations, parce qu'il y a des versets pour les trois positions. La seule chose que Jésus nous a dit, soyez prêts. Est-ce que vous êtes prêts ce matin, bien-aimé? Est-ce que vous êtes prêts à être peut-être la génération qui se rend vivant pour monter au ciel, qui ne connaîtra pas la mort physique? C'est extraordinaire, bien-aimé. C'est extraordinaire. Toutes les générations de chrétiens ont voulu ça. Même Paul a cru qu'à son époque, Jésus reviendrait. Il dit dans Thessaloniciens, nous qui serons, il ne dit pas vous qui serez encore vivants, nous qui serons encore vivants, donc il s'inclut dedans. Paul croyait que Jésus reviendrait, parce qu'à chaque période, à chaque époque, Dieu a donné des signes. Et frères et sœurs, nous sommes peut-être la dernière génération. Dernière génération. Et gardons nos yeux ouverts, gardons nos yeux ouverts et puissions-nous donner un témoignage non seulement à nos enfants, mais à tous ceux et celles qui nous entourent autour de nous. Bien-aimé, David a pris de mauvaises décisions qui seront lourdes de conséquences parce qu'il a écouté son cœur et cela l'a égaré. Mes amis, soyons très prudents car il est possible aujourd'hui de se laisser prendre dans nos sentiments, dans les impulsions de notre cœur et de finalement suivre la même direction que David, sans réfléchir aux lourdes conséquences qui peuvent accompagner les décisions qu'il s'apprête à prendre. Bien-aimés, lorsque nous faisons face de sérieux problèmes et que nous décidons non seulement de fuir les problèmes en nous appuyant sur les impulsions de notre cœur, nous courons la catastrophe comme ce fut le cas pour David. Examinons maintenant les répercussions que va avoir cette décision prise par David de s'installer chez les Philistins. Premièrement, la vie de tous ceux qui ont suivi David va être grandement affectée. Il est écrit au verset 2 et 3 que David partit avec 600 hommes et se rendit chez Achish, c'est-à-dire il y a 600 hommes avec tous les membres de leur famille qui vont suivre David et qui vont aller vivre, s'installer dans le territoire des Philistins. Deuxièmement, à cause de la décision insensée prise par David de fuir, tous ceux dont la vie était liée à celle de David vont également être affectés. Ici, c'est-à-dire non seulement les 600 hommes qui l'avaient suivi ainsi que tous les membres de leur famille, mais les femmes de David et leurs enfants eux-mêmes. Tous ceux qui avaient suivi David chez les Philistins subiront les conséquences de sa décision. Ils seront tous amenés à faire des compromis et tenter de vivre comme le monde parce qu'un homme a écouté les impulsions de son cœur au lieu de s'appuyer sur les promesses de Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains chapitre 14, verset 7, qu'aucun de nous ne doit vivre pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Cela signifie essentiellement que tout ce que nous faisons dans notre vie va finir par influencer la vie de ceux qui nous entourent. Lorsqu'un mari ou une épouse néglige de faire la volonté de Dieu, cela affecte son mariage. Lorsqu'un ou deux parents, ou les deux parents, pardon, refusent de vivre selon les normes de la parole de Dieu, cela va avoir un impact non seulement sur la vie de leurs enfants, mais sur leurs futures décisions pour Jésus-Christ. Bien-aimés, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse et de vous raconter ce qui m'est arrivé dans mon ministère pastoral. Ça faisait quelques mois qu'il y avait une femme, en fait un couple, mais dont la femme venait me voir régulièrement pour me demander de témoigner à sa fille, qui allait avoir 18 ans. Et la règle, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai établi, la règle, c'était que les enfants devaient venir à l'église jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, ben, ils prenaient une décision, soit pour Jésus ou ils retournaient. Bon, alors on peut prendre une décision pour Jésus pour rester dans l'église. Donc, c'est un piège aussi, hein. On ne prend pas une décision pour rester dans l'église, on prend une décision parce qu'on a réalisé qu'on était perdu, qu'on était pécheur, et puis puis voilà, quoi. Et finalement, la dernière dimanche qu'elle vient à l'église, sa mère vient me voir, elle m'a dit, écoute, c'est le dernier dimanche, elle s'en va avec, elle va quitter l'église, et puis j'aimerais bien que tu lui parles de son salut, et elle me supplie de lui parler. Je lui dis, écoute, je vais la rencontrer après le culte, et je vais lui parler. Alors après le culte, on s'assoit, on s'en va dans une salle, il y a un grand sous-sol chez nous, la même grandeur qu'ici, et je prends un temps avec elle, et je lui dis, écoute, peux-tu me dire, qu'est-ce qui t'empêche, après toutes ces années, toi qui es né dans l'Église, qu'est-ce qui t'empêche de prendre une décision pour Jésus? Et elle m'a dit, pasteur, elle m'a dit, mes parents, la semaine, ils sont toujours en train de se disputer. Ils sont toujours en train de s'insulter. C'est presque la bagarre à chaque jour chez nous. Et le dimanche, je les vois rentrer dans l'église en train de louer le Seigneur, en train d'adorer le Seigneur. Elle dit, mon copain, c'est un athée convaincu. Ses parents, ce sont des athées convaincus. Vous voulez venir avec moi cet après-midi, passer l'après-midi chez leurs parents, chez ses parents? Ça fait 30 ans qu'ils sont mariés. Et on n'est pas, ils sont toujours en lune de miel. Ils sont un meilleur témoignage pour moi que mes propres parents. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, bien-aimé? On n'est pas préparé en tant que pasteur d'entendre des paroles semblables. Bien-aimé, peu importe où nous vivons, que ce soit à la maison, à l'école, à l'église ou au travail, les gens sont influencés par la façon dont nous nous comportons dans nos vies. Nous ne savons jamais qui nous observe ou qui pourrait être gêné lorsque nous cédons aux impulsions de notre cœur ou que nous nous éloignons de Dieu. Bien-aimés, nos enfants nous observent. Les compagnons de travail sur votre lieu de travail vous observent. Les gens autour de nous, dans notre voisinage, nous observent, bien-aimés. Rappelons-nous de cela. Nous pouvons être un obstacle pour le salut de nos enfants. Ce que nous disons, nous devons être en mesure de le vivre pour démontrer que nous ne vivons pas une religion, mais que c'est vraiment une relation intime et personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Rappelons-nous qu'il y a toujours un prix à payer lorsque nous agissons de façon négative devant les autres. Non seulement la décision de David va affecter les gens autour de lui, mais la façon de vivre de David sera elle aussi affectée. En d'autres mots, la décision de David de s'éloigner du Seigneur va complètement changer sa vie. Écoutez certaines choses que nous révèle la Bible sur cette période tragique de la vie de David. Versets 6, 5 et 6. Un jour, David dit à Achish, le roi philistin, « Si le roi considère que je suis digne de sa confiance, qu'il m'autorise à m'installer dans l'une de ses localités, à la campagne. Pourquoi devrais-je résider avec lui dans la ville royale? » Le jour même, Achish lui donna la ville de Siklag. David va demander de l'aide, mais encore une fois, à la mauvaise personne. Non seulement il a commencé à fréquenter ceux qui n'étaient pas fréquentables, mais en plus, il a su s'arranger avec l'ennemi, bien-aimé. Regardez la suite. De Siklag, David et ses compagnons lançaient des attaques contre différents peuples, dont les Amalécites, les populations qui habitaient tout près de la frontière de l'Égypte, c'est-à-dire à la limite aussi de la Philistie et de l'Égypte. Ils dévastaient leur pays, ça c'est David, écoutez, ils dévastaient leur pays, ils ne laissaient ni homme, ni enfant, ni femme, ni homme, ni enfant, ils emmenaient les moutons et les bœufs, les ânes et les chameaux, ainsi que les vêtements, et revenaient auprès d'Achish. Ça veut dire que quand ils faisaient une incursion dans un village, eh bien, ils suivaient tout le monde. Et on va nous donner la raison en plus. Quand Achish demandait à David, « Contre qui avez-vous lancé une attaque aujourd'hui? » David lui répondait, « Contre la partie sud de Juda. » Partie sud, mais... Le roi pensait quand même que c'était en Israël, mais non, c'était à la limite. Mais c'était d'un autre pays. Contre la partie sur d'autres territoires, ainsi de suite, David ne laissait ramener vivant à Gath ni homme ni femme qui aurait pu donner à son sujet des informations défavorables en disant « Voilà ce que David a fait ». David a agi de cette manière pendant tout le temps qu'il a résidé dans le pays des Philistins. C'est pourquoi Achish avait pleinement confiance en lui, car il se disait en lui-même, « David s'est rendu absolument odieux à ses compatriotes, il sera donc pour toujours à mon service. » Bien-aimé, David a fait des choses qu'il n'aurait jamais fait auparavant. Il a assassiné des gens pour se couvrir, il a menti comme il respirait pour garder les faveurs du roi, et il s'est soumis à un roi païen qui était non seulement le pire ennemi du peuple de Dieu, mais de Dieu lui-même. Le séjour dans le pays des Philistins dura 16 mois, nous dit la parole. Et pendant toute cette période, la façon de vivre de David sera influencée par la décision qu'il avait prise d'écouter les impulsions de son cœur. Le problème, bien-aimé, les écouter, c'est une chose, mais s'en sortir après, c'est une autre chose. Le sentiment de culpabilité qui peut vous envahir, qui peut m'envahir lorsque nous écoutons les impulsions de notre cœur et qu'on voit jusqu'à quel point on est rendu loin, loin, loin de notre communion de Dieu, elle est presque morte parce qu'on a fait des compromis. Les impulsions de notre cœur, nos sentiments nous amènent à faire des compromis. Et David va faire énormément de compromis. Je suis convaincu que David, il lui est arrivé à l'occasion de trouver le temps long. Et il est intéressant, bien-aimé, durant cette période, parce que sa communion était coupée avec le Seigneur, que durant cette période-là, David n'a écrit aucun psaume durant cette période de sa vie. Il semble que celui qui chantait de merveilleux cantiques à la gloire de Dieu avait perdu la voix pendant cette période. Nous pouvons être certains que lorsqu'un chrétien prend la décision de s'éloigner du Seigneur et de l'endroit de bénédiction dans lequel il se trouve, sa vie sera affectée d'une façon négative et il n'aura pas le goût de chanter des cantiques qui glorifient Dieu. Bien-aimés, ce matin, on a vu des cantiques magnifiques, bien-aimés. Mais est-ce que pour nous, c'est juste le fait de les chanter, ça se limite à ça, ou si on, d'une certaine façon, on y vit ces cantiques-là, parce que durant la semaine, c'est ce qu'on met en pratique. Se lever le matin et dire, « Seigneur, je te loue, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, pour la journée qui va se présenter devant moi. » Et prendre un temps, bon, c'est vrai que quand on travaille, c'est pas évident, mais prendre un temps, lire un chapitre dans la parole, essayer de retenir une chose et essayer de le mettre en pratique durant la journée. Et bien aimé, et s'appuyer sur les forces du Seigneur tout au long de la journée parce qu'on lui a remis notre journée. C'est ça. Est-ce que le Seigneur occupe la première place quand on se lève le matin ou il va occuper peut-être la première place quand on aura du temps, on trouvera du temps durant la journée pour prendre un temps avec lui? Frères et sœurs, il ne faut pas se tromper, l'homme récolte ce qu'il aura semé. Le temps que nous passons avec Dieu, eh bien, n'est jamais perdu. Et on va récolter du fruit à un moment donné. Dieu n'est pas un Dieu qui n'est pas reconnaissant. Il prend plaisir à voir ses enfants qui prennent du temps avec lui. C'est ce qu'il recherche par-dessus tout. Rapidement, je vais aller plus vite, un petit peu plus vite. En jetant un coup d'œil autour d'eux, David et tous ceux qui l'ont suivi vont constater que non seulement leur style de vie avait changé, mais que pendant ces 16 mois, ils avaient dépéri loin de chez eux. De plus, ils vont découvrir non seulement que les cantiques qu'ils chantaient n'étaient plus que de vagues souvenirs, mais que la joie qu'ils trouvaient auprès du Seigneur avait aussi disparu. Vous ne pouvez pas vous éloigner de Dieu et vivre dans le péché sans en être affecté. Si le fait de vivre éloigné du Seigneur ne change pas notre vie, eh bien, j'oserais même affirmer que nous n'avons jamais connu le Seigneur bien-aimé. Moi, j'en ai fait des péchés dans ma vie, et je ne vous les raconterai pas parce que ce n'est pas édifiant. Donc, vous n'êtes pas ici pour entendre quelque chose qui n'est pas édifiant ce matin. Mais moi, à partir du moment où j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'ai frappé un mur, bien-aimé. Et l'ancien Jacques Hudon, qui prenait plaisir à baigner dans le péché, il est mort. Il est mort et je fais tout pour ne pas le réveiller, pour encore imiter cette vieille nature qui est en moi. Maintenant, c'est le nouveau Jacques Hudon, bien-aimé. Et heureusement que je n'avais pas connu l'ancien, parce que vous m'auriez peut-être pas accepté de me prêcher la parole dans votre église ce matin. Mais ce qui est béni, frères et sœurs, Dieu a plus de facilité à nous pardonner que nous avons, nous, la facilité de pardonner à ceux qui nous font du mal. Dieu a beaucoup plus de facilité à oublier le mal qu'on a fait que nous, on a des facilités à oublier le mal que les autres nous font. Frères et sœurs, on a un Dieu qui est unique, un Dieu qui est un être unique, il est inimitable. On peut nous sortir n'importe quoi, la science peut inventer n'importe quoi. Dieu, c'est Dieu, bien-aimé. Dieu, c'est Dieu. Dieu, il entend tout. Peu importe la langue, peu importe le dialecte. Il n'y a aucune voyelle, aucune consonne qui échappe à l'oreille de Dieu dans le monde en même temps. Vous avez de la poussière quand on éclaire dans une maison. Vous voyez la poussière. Imaginez-vous ce qu'il y a sur la terre. Imaginez-vous ce qu'il y a dans l'univers. Dieu connaît le nombre exact de la poussière qui se promène, bien-aimé. Quand on dit qu'on est tout seul, qu'il n'y a personne qui nous voit, mon œil, Dieu, frères et sœurs, Dieu, il voit tout, partout en même temps. Il est unique, bien-aimé. Il est unique. Et c'est ce Dieu-là qui nous a acceptés. Il nous a choisis pour passer l'éternité avec lui. Dieu, ce n'est pas un dépressif. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de calmant, bien-aimé. Il se suffit à lui-même, il est Dieu. Et il a choisi que nous passions l'éternité pour vivre avec lui et dans l'Apocalypse pour régner avec lui, nous dit l'auteur de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, pour régner avec lui. Et bien aimé, il nous a fait de nous des co-héritiers avec Jésus-Christ. Tout ce qu'il a donné à Jésus, il vous le donne. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Rien. Lui a tout fait pour que vous le méritiez et que je le mérite, bien-aimé. Co-héritier de Jésus-Christ, c'est incroyable! Pensez juste à ça! Et souvent, on s'accroche à nos petites maisons, on s'accroche à nos petits comptes de banque, on s'accroche à ci, on s'accroche à ça, et on oublie, et c'est le rôle de la vieille nature, on oublie qu'on est devenu des co-héritiers avec Jésus-Christ. Et on oublie que ta petite maison, quand Dieu va détruire la terre, elle va brûler, et que notre argent va brûler, et que tout va disparaître, c'est ce que la Bible dit à travers l'épître de l'apôtre de Pierre. Et on oublie, finalement, ce qui va durer pour l'éternité. Paul dit, attachez-vous aux choses invisibles et non pas aux choses visibles, parce que cela est appelé à disparaître. Bien-aimé, David, eh bien, la paix que David avait dans son cœur a été aussi affectée. Non seulement sa vie est affectée, non seulement la vie des autres autour de lui est affectée, mais la vie dans son cœur aussi est affectée. Frères et sœurs, moi je ne suis pas capable de prêcher ce que je mets pas en pratique. Moi je ne suis pas un hypocrite. Et quand on est assis dans la salle, quand quelqu'un prêche en avant et qu'il ne met pas en pratique ce qu'il prêche, si notre relation elle est bien avec Dieu, on le sent. On ne peut pas tromper les gens. On le sent. Et moi, je ne veux pas vous dire, quand je vais partir d'ici ce matin, que vous me disiez, que vous disiez vous-même, raconte des bobards. Lui. Il est juste bon pour nous enseigner, mais à part de ça, lui, il vit rien avec le Seigneur. Moi, c'est pas mon but ce matin, moi. C'est pas mon but. Moi, je suis limité à vous prêcher ce que je pratique. En dehors de ce que je pratique pas, je peux pas vous le prêcher. Je suis un hypocrite si je le fais. David, son cœur va être affecté. Moi, si je suis en règle avec le Seigneur, vous savez pourquoi je vais aux toilettes souvent maintenant, je m'assois en arrière. C'est ton prénom, mon frère, c'est quoi? C'est quoi ton prénom?
Jacques.
Alors, Jacques, moi c'est Jacques aussi, c'est bien. Ah, il m'a dit, va t'asseoir en avant. Bien-aimé, écoutez, moi je suis tellement conscient, là, qui je représente quand je viens en avant, là. Gardez ça pour vous, éparpillez pas ça à travers les APEB. Moi, j'ai la diarrhée. C'est pour ça que je vais aux toilettes. Et je me lève plusieurs fois. Parce que je sais là, que je parle au nom de quelqu'un à qui je vais être redevable en double devant lui. Je ne peux pas me permettre de raconter n'importe quoi en avant. Moi, je suis un homme qui parle avec son cœur parce que Dieu a touché mon cœur en Jésus-Christ. Et ici, je ne suis pas venu ici ce matin pour vous remplir la tête de paroles qui sont vaines. J'ai prié au début pour que Dieu remplisse vos cœurs et qu'il vous rassasie. Parce que mon objectif ici ce matin en prêchant la parole, c'est que vous sortiez d'ici avec la conviction que vous êtes sortis plus grandi que quand vous êtes rentré. Que vous avez reçu quelque chose ce matin. Que vous avez reçu la nourriture que vous aviez besoin ce matin. C'est ça qui est important. Et bien aimé, j'ai parlé tantôt que l'Église avait abandonné ses doctrines de base. Bien-aimés, le sang de l'Église, c'est l'évangélisation. Si on n'évangélise pas, on va disparaître un par un. Et le pasteur qui sera dans cette Église à ce moment-là, il va tout ce qu'il va faire, il va mettre la clé dans la porte en arrière. Bien-aimés, le sang, c'est la vie. C'est la vie de l'Église. Le sang dans un être humain, et le sang, et l'Église est comparée à un corps. Le sang dans l'être humain, à partir du moment où il s'arrête, il est mort. Ben, l'évangélisation, quand elle arrête dans l'Église, elle est morte. C'est un des signes. Et on ne construit pas une Église à travers des transferts de d'autres Églises. C'est avec des nouvelles personnes. C'est du sang nouveau. C'est comme une transfusion sanguine qu'on reçoit. C'est ça qui est magnifique. Quand on m'a demandé d'être pasteur dans une Église à Liège, on m'a dit, tu n'as rien à faire. Écoute, il y a 80 personnes, tu n'as rien à faire. Oui, mais ça commençait à être 50 ans et plus. On avait perdu une génération. Et ses parents avaient perdu leurs enfants, leurs petits-enfants. Ouais. Et moi, je leur ai dit simplement, quand ils ont voulu me demander, ben moi, je ne suis pas ici pour fermer l'Église. Moi, je ne me contenterai pas à prêcher des beaux messages le dimanche, de vous enterrer un par un et à mettre la clé ensuite dans la porte. Et par la grâce de Dieu, on a commencé à évangéliser dans les rues, à rencontrer les gens dans le porte-à-porte. Et on était 120, 150. À la fin, il y avait plus que la moitié des gens c'était des nouvelles personnes, et non pas celles qui étaient nées dans l'Église, mais des nouvelles personnes qui étaient le fruit de l'évangélisation. Je crois sincèrement que les gens dans l'Église, les chrétiens, c'est pas qu'ils ne veulent pas évangéliser, c'est qu'ils ne savent pas comment. On est une génération passée qui n'avons pas évangélisé, on s'est fié sur Billy Graham, on s'est fié sur un puis sur l'autre, des invités, mais non. La première parole qu'on doit dire dans l'évangélisation, c'est « bonjour ». Moi, je fais du jogging le matin, vers 8h10 parce que c'est le meilleur temps. Hein? C'est le temps où les gens promènent leurs chiens, vous avez remarqué? Et je ne sais pas si c'est ici, mais chez nous, c'est ça. Et où c'est les chiens qui promènent les maîtres. Hein? Et moi, quand je cours, je les croise, je dis « bonjour ». Après, il y en a qui ne me parlent pas, Et au bout de 5-6 fois, bonjour, ben ils finissent par me dire bonjour, je continue. Et la fois d'après, ben je m'arrête pour le chien, je parle du chien, quelle est la race de votre chien, et ainsi de suite. Frère, c'est ça, et à un moment donné, j'ai parlé avec une vieille personne, une personne de 80 ans et plus, que je voyais presque à tous les jours. Et à un moment donné, je le vois plus. Et j'avais surveillé d'où il rentrait. Et j'ai vu la maison et je suis allé frapper. Je suis dans le jogging et là, je vois y a la femme de ménage qui me répond. Donc, elle va chercher la dame. Et je dis, écoutez, excusez-moi, je dis, je cours. Et puis, régulièrement, je dis, je parlais avec votre mari, je ne le vois plus. Elle part en larmes, la dame. Elle dit, il vient de faire un AVC, il était placé. Elle dit, il est à l'hôpital, on est en train d'essayer de le réhabiliter. En tout cas, il fait des exercices pour revenir au mieux possible. Eh bien, j'ai dit, écoutez, je vais passer, puis je vais essayer d'aller le voir. Ben, elle dit, écoutez, on vient d'acheter un lit, on vient de louer un lit, et puis il revient. Alors, écoutez, ben, j'ai dit, si vous le permettez, je vais venir lui dire bonjour. Et je suis allé lui dire bonjour. Et la première fois, j'ai parlé avec eux, j'ai parlé de tout et de rien. Je leur ai dit ce que je faisais dans ma vie, dans la vie. Et avant de partir, j'ai demandé au monsieur s'il me permettait de prier. J'étais avec des non-chrétiens, je n'étais pas pour m'imposer. J'ai dit, si vous voulez, je peux prier. Et quand j'ai ouvert les yeux, ce pauvre monsieur, il pleurait comme un bébé, comme un enfant. Ben, c'est ça, il y a une personne ici à côté un matin. Là. Je suis passé, j'ai dit bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais bien que vous montriez après où il habite, parce que je vais aller lui parler après. Il m'a simplement dit ceci à propos de l'Église et de sa vie. Il dit, moi, j'ai rien à me pardonner. Je dis, est-ce que vous êtes déjà allé? Il dit, oh non, pourquoi j'irais là, j'ai rien à me pardonner. Ben, j'aimerais bien aller lui montrer qu'il fait réaliser qu'il est pécheur, ce bonhomme-là. Il va peut-être arrêter de critiquer l'Église pour chercher des critiques pour tout et pour rien. Pour l'Église ici, il entend trop de bruit. J'ai dit, oui, mais le bruit, c'est vrai que ça nous donne des fois des mauvaises impressions, mais quand on entend les paroles avec le bruit, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est vrai, des chants chrétiens, hein? C'est vrai. Des gens qui se sont convertis sur des chants chrétiens. Frères et sœurs, Dieu veut se glorifier à travers vous. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu veut se glorifier à travers vous. Ah, quel Dieu, quoi! Quel Dieu! Jésus, un homme 100% homme, sans péché. Nous, une bande de... Voilà. Il nous fait co-héritier avec Jésus-Christ. Il ne fait pas de différence en Jésus. Et bien aimé, quand nous chutons, Dieu ne nous aime pas moins. Dieu est simplement attristé de voir que son enfant s'est écarté du chemin qui mène à la vie éternelle. Et quand nous faisons de bonnes choses, bien aimés, Dieu ne nous aime pas plus. Mais Dieu se réjouit dans son cœur de voir que son enfant marche en nouveauté de vie sur ce chemin qui mène à la vie éternelle. L'amour de Dieu, bien aimé, il est invariable. Invariable. Et j'aimerais, on finira probablement pas le message ce matin, mais j'aimerais vous dire une chose, il y a un courant de pensée qui vient des États-Unis qui s'appelle l'Église émergente. Il faut faire très attention à ce courant-là. Il y a déjà des églises qui ont été infectées. C'est de séparer le Dieu de l'Ancien Testament avec le Dieu du Nouveau Testament. Et ça veut dire que ce qui était abomination dans l'Ancien Testament, ça n'est plus dans le Nouveau. Et ce qui était péché dans l'Ancien Testament, ce n'est pas nécessairement encore péché dans le Nouveau. Ce qui permet à faire en sorte qu'on a des aberrations dans certaines églises où on voit des choses qui sont péchées et que les gens... Eh bien, que des chrétiens qui louent et qui rendent gloire à Dieu parce que ça se produit dans l'Église. On appelle ça l'Église émergente. Si vous avez l'occasion de taper ça sur Google, eh bien, vous allez voir que les États-Unis ne nous envoient pas toujours des choses qui sont bonnes, mais c'est dangereux pour celui, en tout cas, qui ne lit pas la parole. Il y a des églises qui m'ont défendu de parler du retour de Jésus parce que ça traumatise les gens. Alors, ça nous permet de voir jusqu'à quel point ils sont en règle avec le Seigneur, n'est-ce pas? Moi, j'ai hâte que le Seigneur revienne, hein, pour mettre fin à tous ces abus sexuels, à ces abus physiques, à toute cette morale. Frères et sœurs, vous pensez qu'on a quelque chose à envier à Sodome et Gomorre? Je suis convaincu que c'est moins pire chez Sodome et Gomorre que ce qu'on y voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la période où ce qui était bien avant, ce qui est bien avant est maintenant mal, et ce qui était mal avant est rendu bien. Il n'y a plus de limite pour le péché, bien-aimé. Il n'y a plus de limite. Vous ne pouvez pas s'imaginer, moi déjà quand j'étais policier, ce que je vivais, ce que je voyais, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Il n'y a plus de limite pour le péché. Bien-aimés, les versets 6 à 8 nous montrent jusqu'à quel point David était tombé bas. « Et, ouais, je vais les lire rapidement. Alors, par le Seigneur vivant, tu es un homme loyal, lui dit le roi philistin. Il dit, je trouve judicieux que tu participes avec moi à cette expédition militaire, car depuis le jour où tu es arrivé chez moi jusqu'à présent, je ne t'ai jamais vu mal agir. Mais tu ne plais pas aux autres chefs philistins. Par conséquent, retourne en paix chez toi afin de ne pas les indisposer. Écoutez bien la réponse de David, bien-aimé, jusqu'où il en était rendu parce qu'il avait écouté les impulsions de son cœur. Mais qu'ai-je donc fait? Qu'as-tu à me reprocher depuis le jour où je suis entré à ton service jusqu'à présent pour que je ne puisse pas aller combattre tes ennemis? Mais bien-aimé, les ennemis du roi philistin, c'est le peuple d'Israël. David était prêt à aller combattre son peuple. Il ne faisait même plus la différence. Pris, trompé par ses sentiments. On voit David en train de ramper aux pieds d'un roi païen et lui déclarer lui-même qu'il est son serviteur. Il va même dire que les ennemis du roi Achish sont ses ennemis et le roi Achish va reconnaître David comme étant un de ses fidèles serviteurs bien-aimés. Et je ne pense pas que du haut du ciel, Dieu avait la même opinion que le roi philistin. Dieu ne devait être pas trop content de la vie que David était en train de mener. Écoutez bien ce que le roi philistin va répondre à David maintenant. Là, c'est assez heureusement qu'on est assis parce qu'on tomberait par terre. Écoutez bien. Tu m'es aussi agréable qu'un ange de Dieu, un païen bien-aimé qui lui raconte ça. Tu m'es aussi agréable qu'un ange de Dieu, seulement, ben, tu sais que les autres officiers qui sont avec moi, ben, ils ne sont pas d'accord à ce que tu viennes, ils ont peur qu'à un moment donné, tu te retournes contre nous par en arrière et que tu nous attaques. Ça se limite à ça, c'est à peu près ça, les versets 9 à 11. Bien-aimés, ne nous y trompons pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. David s'apprête à récolter la moisson de la méchanceté qu'il va semer. Et comment? Eh bien, rapidement. Chapitre 30, versets 1 à 5, vous lirez ça à la maison. Les Amalécites qui avaient été attaqués par David vont venir attaquer Siklag. Ils vont détruire la ville. Ils vont enlever les enfants de tout le monde. Ils vont enlever les femmes. Ils vont enlever tout le monde. Pendant que les 600 sont allés combattre avec les Philistins. Et David va perdre au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Les Amalécites vont exercer des représailles contre David et ses hommes pour leur action antérieure, en amenant leur famille, en réduisant ensemble la ville de Siklag. Et pourtant, bien-aimés, pourtant, ces païens vont montrer plus de grâce et de compassion que David, l'homme de Dieu, avait montré à ses ennemis, en épargnant leurs femmes et leurs enfants. Alors que David, quand il allait dans leur village, il tuait les enfants, il tuait les femmes et les hommes. Mais ils vont épargner les femmes et les enfants, les 600 hommes de David, plus ses propres enfants à lui. Frères et sœurs, des fois, il y a des païens qui se conduisent mieux que des chrétiens. Il y a des païens qui pratiquent mieux l'hospitalité que certains chrétiens. Je vais vous dire quelque chose qui est très gênant, en tout cas pour moi. J'ai été plus souvent invité chez les non-croyants pendant la pandémie que chez les chrétiens. J'étais plus en mesure de parler avec ces gens-là que de parler avec des chrétiens de la parole de Dieu. Et des chrétiens, ça les rend mal à l'aise qu'on parle de la parole. Bien-aimé, en écoutant les impulsions de son cœur, David avait atteint le fond du baril. Et lorsque ces hommes vont voir tout ce qui était détruit, ils vont se tourner contre David parce qu'ils vont réaliser que c'est de sa faute s'ils en sont rendus à cette situation-là. Quel portrait effrayant nous avons ici du pouvoir et du potentiel que le péché peut avoir sur nos vies. Vous et moi, nous ne pouvons pas nous éloigner du Seigneur et suivre notre propre chemin en pensant que nous ne finirons pas par en payer un prix terrible élevé un jour. Peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui se trouvent dans la même situation que David ce matin. Vous avez écouté les impulsions de votre cœur et vous avez perdu votre joie et votre paix dans le Seigneur parce que vous avez accepté de faire des compromis, voire même vivre dans le péché. Si c'est là votre cas, permettez-moi de vous poser quelques questions. Est-ce que le péché qui vous éloigne de Dieu, si c'est votre cas ce matin, est-ce que le péché qui vous éloigne de Dieu, vaut le prix que vous risquez de payer un jour ou l'autre? Êtes-vous prêt à payer le prix de perdre votre mari ou votre épouse? Êtes-vous prêt à payer le prix de perdre vos enfants? Êtes-vous prêt à payer le prix de perdre le ministère que vous exercez dans l'Église? Êtes-vous prêt à payer le prix de perdre votre réputation? Êtes-vous prêt à payer le prix de perdre votre communion avec Dieu? Êtes-vous prêt à payer le prix de perdre votre santé spirituelle et physique? Êtes-vous prêt à payer le prix de perdre votre propre vie? Ne pensons pas une seule seconde que nous pouvons nous éloigner du Seigneur et le faire sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Il y aura un prix à payer si nous lui appartenons, et Dieu n'aura aucun mal à percevoir ce prix dans nos vies. C'est la leçon claire comme de l'eau de roche que nous retrouvons partout dans la Bible. Je n'invente rien ce matin, c'est partout dans la Bible. Dieu l'a rappelé à son peuple dans Nombre, chapitre 32, verset 23. « Si vous n'agissez pas selon ma parole, vous commettrez un péché envers moi et vous en subirez les conséquences. Sachez le bien. » Le verset se termine. Frères et sœurs, avant de prendre la décision insensée de nous éloigner, parce que je m'inclus là-dedans, de nous éloigner du Seigneur, considérons le prix que nous pourrions en payer. Je remercie le Seigneur que l'histoire ne s'arrête pas là. Et je veux pas, j'ai essayé de prendre 5 minutes pour terminer, parce que si je termine cela, c'est déprimant. Vous allez partir du cycle d'une dépression. Vous avez fait une dépression, quoi. C'est que du mauvais. Mais là, il y a une bonne nouvelle, bien-aimé. Il y a une bonne nouvelle. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Je suis heureux que nous assistions au rétablissement de la relation de David avec Dieu. Car au verset 6 à 8 du chapitre 30, nous voyons que David a rétabli sa relation avec le Seigneur. Il est écrit dans la dernière partie du verset 6 que David se fortifia, reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Malheureusement, c'est ce qu'il aurait dû faire depuis le début, mais jamais trop tard, hein, pour bien faire. Il le fait là maintenant. Et quand David, il va le faire quand David a perdu tout ce qu'un homme peut perdre, il va se tourner finalement vers le Seigneur. Il va se tourner. Peut-être s'est-il rendu compte qu'il regardait, lorsqu'il regardait les vies tristes et anéanties de ceux qui l'avaient suivi, et que tout ce qui s'était passé était le résultat d'avoir suivi d'une manière insensée les impulsions de son propre cœur, qu'il va se tourner vers Dieu dans un esprit de repentance. Et après s'être repenti, il savait qu'il pouvait maintenant faire confiance à Dieu. Je ne lirai pas les passages parce qu'il est trop tard. Mais il va prier dans ces versets-là, vous regarderez chapitre 30, verset 7, il va prier pour rechercher non seulement à faire la volonté de Dieu, mais maintenant aussi à chercher l'aide de Dieu, bien-aimé. Là, il n'écoute pas son cœur, sa conscience, elle est éveillée, bien-aimé. Là, en tant que croyant, il vient de réaliser qu'il est complètement à côté de ses pompes, qu'il a marché à côté de ses pompes, qu'il a suivi ses propres voies plutôt que celles de Dieu, et qu'il s'est mis dans la boue. Il y a de la boue par-dessus la tête, et là, il veut s'en sortir, et le seul moyen, c'est de revenir devant le trône de la grâce de Dieu, confesser son péché, se repentir, et repartir sur de nouvelles rails. Si c'est votre cas, comme David ce matin, la solution, elle se trouve là, bien-aimé. On se présente, Hébreux. On se présente devant le trône de la grâce de Dieu, on confesse notre péché, on se repent, et puis on redémarre sur de nouvelles bases dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la solution que Dieu nous donne, bien-aimés. Et quand David va entendre la direction du Seigneur pour sa vie, il n'hésitera pas, il va partir avec ses hommes, ils vont aller attaquer les Amalécites, ils vont récupérer leur famille, même s'ils ne la méritaient pas avec tout le mal qu'ils avaient fait, eh bien, Dieu va les bénir et ils vont remporter la victoire. Bien-aimés, ce que nous avons appris de David dans ce passage, c'est un enseignement sur ce qu'une personne ne devrait pas faire. Et la dernière partie de ce message nous montre clairement ce que nous sommes censés faire lorsque nous avons pris la décision de nous éloigner du Seigneur. La première chose à faire, c'est de nous repentir. Nous devons nous présenter devant le Seigneur et confesser notre péché. Car rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné, nous dit le psalmiste, nous dit David lui-même dans le psaume 51. Quand le péché est confessé et traité selon la manière de Dieu, il pardonne ce péché et il restaure son enfant qui a péché. Bien-aimé, c'est une bénédiction, véritable bénédiction de savoir cela, car personne ne peut dire qu'il ne succombera pas jamais. Je vais prendre une gorgée d'eau. Qui ne succombera pas finalement à la tentation. La bonne nouvelle, c'est que si vous vous êtes éloigné de Dieu ce matin, vous devez savoir que vous pouvez rentrer à la maison aujourd'hui et trouver complètement le pardon et la restauration devant le trône de la grâce de Dieu. Avez-vous remarqué la réponse du Seigneur suite à la repentance de David, et ce, même si celui-ci avait vécu en dehors de la volonté de Dieu pendant 16 mois? Dieu ne lui a pas dit, Hey, mon copain, ça t'a pris 16 mois pour vivre loin de moi. Je vais quand même attendre moi aussi 16 mois pour te pardonner. Dieu ne lui a pas dit ça, bien-aimé. Dieu ne lui a pas dit non plus, je vais te donner 3 mois d'essai, David. Si tu agis bien, alors nous pourrons parler de pardon et de restauration. Dieu ne lui a pas dit ça, bien-aimé. Dieu ne lui a pas dit non plus, je suis désolé, David, mais tu as dépassé les limites cette fois-ci. J'ai changé d'idée, tu n'es pas fiable. J'ai trouvé quelqu'un d'autre pour être le futur roi. Dieu ne lui a pas dit ça, bien-aimé. Quand Dieu pardonne, il oublie. Qu'est-ce que c'est oublier? C'est pas oublier du point de vue humain, parce qu'il oublierait, il pourrait risquer d'oublier que Adam et Ève ont commis un péché dans le jardin d'Éden. Quand on a vraiment oublié, ça c'est le problème que j'ai rencontré dans mon ministère pastoral chez les couples. Oublier, ça veut dire que tu ne remets jamais en avant la faute que ton prochain a commis contre toi. Je rencontrais des couples souvent, je rencontrais des couples qui me disaient, oui, mais écoutez, à chaque fois qu'on se dispute, elle me dit, oui, mais tu te rappelles pas, il y a 20 ans, ce que tu me fais, t'es peut-être, mais c'est censé être pardonné, oublié, bien-aimé. Il y en a qui sourient, hein, mais c'est vrai, hein, je sais, je vous dis pas parce que vous souriez que c'est ça que vous avez vécu, mais c'est ça qui arrive, quoi. On pardonne du bout de la langue, mais c'est là qu'il faut que ça pardonne, hein. Je vous ai déjà témoigné, hein, moi, ça m'a coûté un cancer, moi. Un cancer, pour savoir que, même me prendre pour Dieu, pour ne pas oublier, là, pour dire, écoute, je t'ai pardonné, mais juste ici, mais j'ai encore du mal dans mon cœur, m'a coûté un cancer, m'a donné 6 mois à vivre, j'ai perdu 22 kilos en 3 semaines. Jusqu'à temps que je ne reconnaisse pas mon péché, il périssait. Et j'ai été voir la personne, je lui ai dit, t'avais raison, tu me disais des fois que je ne t'avais pas pardonné. Ben, tu avais raison, je ne t'ai pas pardonné. Je te demande pardon. Et aussitôt que j'ai demandé pardon, je me suis mis en prière et j'ai entendu le Seigneur qui me disait, je ne suis pas un charismatique, hein, je ne suis pas un gars qui... Moi, je suis un cartésien. Bon, j'ai entendu l'Esprit qui m'a dit, je t'ai guéri. Paf. Je t'ai guéri, bien-aimé. Ça fait maintenant 14 ans. 58 ans. J'ai 72. 14 ans. 14 ans que c'est fini. Je t'ai guéri, bien-aimé. Ne laissons jamais le non-pardon envahir nos cœurs parce que ça construit à chaque jour, brique par-dessus brique, une forteresse qui est extrêmement difficile. Vendredi soir, je suis allé voir un couple qui sont prêts avec le non-pardon. Là, ça commence à faire des années. Et la femme, elle commence à me dire qu'il y a le mal, il y a un mal physique qui est en train de l'envahir, qui est en train de monter. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que t'attends, ma sœur? Qu'est-ce que t'attends? Pardonne avant que tu viennes complètement paralysé. Pardonne. Ça fait trop longtemps, je suis plus capable. Hey! Comment est-ce qu'elle s'est fait prendre dans le piège du diable? Il y a un mur qui s'épaissit à chaque jour qu'elle ne pardonne pas, bien-aimé. Alors que Dieu nous a tout pardonné en Jésus-Christ. Tout. Tout pardonné. Bien-aimé, si Jésus avait un seul instant écouté les impulsions de son cœur en voyant toute l'hypocrisie manifestée par les Philistins, en entendant toutes les insultes qu'il a reçues de la part des soldats romains et en constatant non seulement la trahison de Judas, mais que tous ses disciples l'avaient abandonné, nous serions toujours perdus dans nos péchés. Jésus a gardé ses yeux fixés sur Dieu. Il n'a pas dit, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu. Et ça, c'est une bénédiction pour nous qu'il a dit cette prière-là. Il n'a pas dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il a pris nos péchés sur ses épaules, bien-aimé, le Père, trois fois saint, c'est le Dieu, trois fois saint, s'est détourné de son Fils. Mais l'amour du Père est toujours demeuré présent dans la vie de Jésus. Et ça, c'est magnifique pour nous de savoir que Dieu ne nous abandonnera jamais. Si nous l'aimons bien-aimé, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous a aimé à un point tel que sur la croix, ne cherchant qu'à faire la volonté de son Père et non pas les impulsions de son cœur, Jésus a pu prier et dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si vous tendez l'oreille vers le ciel ce matin, bien-aimé, pendant qu'il intercède pour son Église, qui a de nombreux endroits abandonné le message de l'Évangile, vous pouvez encore entendre Jésus dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience. Merci pour votre présence ce matin.